Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. Des reconfinements sur mesure, c'est l'une des options débattues ce matin en Conseil de défense pour stopper le regain épidémique. Décision demain. Faut-il rendre la vaccination des soignants obligatoire? Ils sont encore trop peu protégés. PSA, Peugeot, Citroën affiche 2 milliards d'euros de bénéfices nets l'an dernier, malgré la crise du Covid et la chute des ventes. Un nouveau geste d'Emmanuel Macron en direction de l'Algérie, l'avocat Ali Boumendjel a bien été torturé et assassiné par l'armée française. C'est ce que reconnaît le président. Rugby, Fabien Galthié mis hors de cause pour la contamination du 15 de France. Le romancier Joël Dicker quitte son éditeur pour se lancer dans l'auto-édition, jamais vue pour un auteur de best-seller. Invitée d'Europe Midi, Marie-Pierre Porchy, elle a été juge des enfants, juge d'instruction pendant 36 ans. Elle publie « Les silences de la loi, une magistrate face à l'inceste chez Fayard ». Comment améliorer la réponse pénale pour les abus sexuels sur enfants ?
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Encore 300 morts à l'hôpital hier et plus de 360 admissions en réanimation. Le niveau monte sans exploser, mais il continue de monter chaque jour, particulièrement en Île-de-France où les services en soins intensifs sont occupés à près de 80% désormais par les malades du Covid. C'est l'une des régions qui pourrait faire l'objet de nouvelles restrictions cette semaine, sans doute un confinement le week-end. Jean-Rémy Baudeau, un conseil de défense vient d'en discuter. Et on peut dire que la pente n'est pas au statu quo.
Non, il va falloir prendre des mesures, il faut trouver des solutions, voilà ce qu'explique un conseiller de l'exécutif, même si pour l'heure il y a encore trop de questions sans réponse. Seule certitude, la situation sanitaire n'est pas bonne, elle est même très disparate entre les régions, vous parliez de l'Île-de-France à l'instant, ça inquiète particulièrement, les réas de la PHP sont au bord de la saturation, mais c'est la même appréhension après les derniers chiffres dans les Hauts-de-France. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, en plus des 20 départements sous surveillance dont on parle depuis plusieurs jours, l'exécutif a pointé 10 départements supplémentaires où la situation devient délicate. Pour autant, la ligne ne change pas. L'exécutif veut faire du cas par cas, du sur-mesure. Le confinement week-end reste une option sérieuse, mais ça n'est pas la seule, dit-on ici à l'Élysée, où l'on veut écarter toute idée de confinement national ou de fermeture des écoles. L'exécutif doit faire donc des annonces demain, mais on aura probablement aussi les résultats de discussions qui auront lieu ce soir, 17h à l'Élysée, réunion autour du président sur le protocole sanitaire de sortie de crise. Chaque ministère est invité à faire des propositions, comme si, avant d'attaquer une nouvelle période difficile, l'Élysée voulait regarder au-delà et parler déjà de l'après.
Jean-Rémy Baudeau en direct du Palais de l'Élysée pour Europe 1. L'autre réponse du gouvernement tient dans l'accélération des vaccinations, on le soulignait hier, et plusieurs voix s'élèvent pour suggérer la mise en place d'une obligation de vaccination chez les soignants. L'idée, Victor Dolande, c'est d'éviter au maximum les contaminations à l'hôpital.
Oui, le Covid est même devenu la première maladie nosocomiale depuis le début de l'épidémie. 44 000 personnes ont contracté le virus à l'hôpital. Et dans un tiers des cas, c'est un personnel de santé qui serait à l'origine de la contamination. Et pour cause, les chiffres sur la vaccination des soignants ne sont pas très encourageants. Seuls 34% des personnels de santé des hôpitaux de Paris se sont fait vacciner à ce jour. Nos frigos sont remplis de vaccins. C'est une catastrophe, me confiait aussi hier un chef de service d'un hôpital à Marseille. Pour François Chaste, président honoraire de l'Académie de pharmacie, cette situation ne peut plus durer.
On vient à l'hôpital pour se faire enlever la vésicule biliaire et on va en réanimation avec la Covid. C'est pas tout à fait normal. Ce vaccin est efficace, il est bien toléré. Donc nous avons un devoir aujourd'hui, c'est non pas d'inciter, mais d'obliger tous les hospitaliers, tous les soignants, mais les médecins en ville aussi bien sûr, à se faire vacciner parce que c'est le seul moyen de réduire, voire d'éradiquer la maladie en quelques mois.
Et il est loin d'être le seul à demander au gouvernement de rendre obligatoire la vaccination pour les soignants, avec un argument qu'ils répètent tous. Quand ils sont recrutés, les soignants ne se posent jamais la question de l'obligation de vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la polio, le BCG et l'hépatite B. Il ne faut donc plus se poser la question pour les vaccins contre le Covid, estime-t-il.
Victor Dolande, merci. La crise économique, pas pour tout le monde. Alors que le constructeur Renault encaissait il y a 10 jours une perte historique de 8 milliards d'euros, son concurrent PSA affiche ce matin une santé presque insolente. 2 milliards de bénéfices nets l'an dernier. Chaque salarié de Peugeot Citroën va ainsi toucher une prime de 3000 euros brut minimum. Alors certes, les ventes ont chuté de plus d'un quart, mais Aurélien Fleureau, comment expliquer le maintien de cette marge ?
Eh bien, c'est la stratégie de Carlos Tavares, le patron de Stellantis, un nouveau groupe qui rassemble désormais PSA et Fiat Chrysler, qui porte à nouveau ses fruits, malgré le contexte sanitaire, malgré les contraintes liées aux émissions de CO2. Hein. Peugeot, c'était tout de même le champion du diesel. Et donc, cette stratégie, eh bien, c'est la réduction des coûts, vendre moins, mais vendre mieux. Cela permet de faire des marges et cela permet donc de redistribuer aux salariés. C'est la très bonne surprise du jour pour Franck Don, délégué CFTC de Stellantis.
Avoir une marge opérationnelle de plus de 7%, c'est exceptionnel. Je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Toutes les catégories ont mis la main à la pâte. C'est un véritable effort de guerre qu'a demandé la direction aux salariés. Et c'est ce qui nous a permis de passer les embûches de manière moins difficile peut-être que d'autres concurrents.
Baisser le point mort de l'entreprise, le moment où l'on arrive à être rentable, hein, c'est ce que Carlos Tavares a mis en place depuis plus de 7 ans chez PSA, un constructeur qui était au bord de la faillite en 2013. Alors il a fallu restructurer, faire baisser la taille des usines, maximiser l'utilisation des lignes de production, faire recours à moins d'intérimaires, diminuer le nombre de salariés aussi. Chaque année, les ruptures conventionnelles collectives entraînent le départ de 1300 à 1500 personnes. Sans brutalité, jusque-là, hein, souligne la plupart des syndicats, qui resteront tout de même très attentifs aux synergies annoncées avec la fusion Fiat Chrysler.
Aurélien Fleureau, merci. Chez Danone, les fonds vautours réclament encore plus de Danettes. Sous leur pression, le PDG Emmanuel Faber a dû abandonner les pleins pouvoirs il y a deux jours en acceptant de dissocier les fonctions de président et de directeur général. Ce matin, l'un des fonds américains, troisième actionnaire de Danone, dénonce le maintien de Monsieur Faber à la présidence et réclame son départ pur et simple. À l'instant, à l'annonce en Conseil des ministres de la dissolution du groupe d'extrême droite Génération Identitaire. Il avait été annoncé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. À présent, ce groupe dont le Rassemblement National a pris la défense publiquement ces derniers jours au nom de la liberté d'expression, ce groupe a donc été officiellement dissous.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Une pause avant la suite, le nouveau geste d'apaisement d'Emmanuel Macron pour la mémoire de la guerre d'Algérie.
Europe Midi. Patrick Cohen.
C'est l'une des tâches de l'histoire de France, l'un des crimes souvent brandis par les Algériens pour demander à Paris repentance et excuses. Dans le communiqué de l'Élysée publié hier soir, Emmanuel Macron ne présente pas d'excuses, mais il reconnaît que l'avocat et dirigeant nationaliste Ali Boumendjel a bien été torturé et assassiné par l'armée française en 57. Et ce geste, promet le président, n'est pas un acte isolé. Aucun crime, aucune atrocité commise pendant la guerre d'Algérie ne peut être excusée ni occultée. Roman Oquet, rappelez-nous qui fut Ali Boumendjel.
C'est le visage de ces milliers d'hommes disparus pendant la bataille d'Alger. Une époque de rafles massives, un engrenage meurtrier entre l'armée française et les indépendantistes. Ali Boumendjel, lui, a 38 ans. C'est un leader nationaliste, un avocat aussi. Il défend les militants du Front de Libération Nationale, le FLN. Une figure qui dérange. Il est arrêté à son bureau d'Alger par les parachutistes français. L'homme est torturé, puis exécuté un mois plus tard. Une mort qu'il faut dissimuler, raconte Malik Ara, historienne spécialiste de l'Algérie.
C'est un assassinat, il est transporté en haut de la terrasse et précipité du haut de la terrasse. La raison de cette mise en scène, c'est que Ali Boumendjel était trop connu et que du coup, il n'était pas possible simplement de le faire disparaître comme on faisait avec d'autres détenus. Cette mise en scène permettait de rendre un corps à la famille, de mettre ça sur le compte d'un suicide et du coup de se dédouaner de l'assassinat.
Ali Boumendjel assassiné, c'est pourtant une certitude pour sa famille. Un crime avoué en 2000 par le général Paul Ossarès lui-même est désormais reconnu par l'État français. Un geste d'apaisement recommandé par l'historien Benjamin Stora dans son rapport sur la colonisation. Ce ne sera pas un acte isolé, a promis Emmanuel Macron, qui exclut en revanche toute excuse pour les ajustements de la France durant la guerre d'Algérie.
Merci à vous, Roman Oquet. À Bruxelles, le Fidesz, le parti au pouvoir en Hongrie, celui de Viktor Orban, quitte le PPE, le Parti populaire européen qui rassemble la plupart des députés conservateurs en Europe, dont les Républicains en France. Séparation actée ce matin, me signale notre correspondante à Bruxelles, Isabelle Horry. Nouvelle journée de répression meurtrière en Birmanie, au moins 7 morts, 7 manifestants pro-démocratie tués par les forces de sécurité qui continuent à tirer à balles réelles. Et puis l'escalade verbale continue à Moscou après les sanctions occidentales. En réponse à l'emprisonnement d'Alexei Navalny, la Russie appelle Washington à ne pas jouer avec le feu et affirme qu'elle réagira sur le principe de la réciprocité. Les sports, le rugby et un mystère résolu au sein du 15 de France sur la contamination Covid de la moitié de l'équipe. L'entraîneur Fabien Galthié est innocenté par l'enquête de la Fédération. Il n'a pas rapporté le virus de ses quelques escapades. La faute reviendrait sur l'équipe de rugby à 7, Axel May ?
Oui, oui, et les conclusions de ce rapport ne sont en fait guère surprenantes. Fabien Galthié, vous le disiez, n'a pas enfreint le règlement en quittant la bulle sanitaire pour aller voir son fils jouer, son fils qui est lui-même rugbyman. Visiblement, les Bleus pouvaient aller en ville manger une gaufre lors de leur séjour à Rome.
Ah bon ?
Quant aux patients, zéro. Bye bye, la thèse initiale du préparateur physique. C'est le rugby à 7 qui a fait entrer le virus à Marcoussis. Les sétistes, comme on les surnomme, avaient servi de partenaires d'entraînement aux Bleus avant leur match en Irlande. Or, l'un d'eux était porteur du virus. Selon nos informations, ce joueur de rugby à 7 avait subi deux tests PCR négatifs, sauf qu'il était en période d'incubation du variant britannique. Autrement dit, responsable, mais pas coupable. Bref, le protocole sanitaire aurait été respecté et le cluster de Marcoussis relèverait plus de la fatalité. On verra ce qu'en pense le ministère des Sports, qui est en train d'éplucher le rapport et qui donnera ses propres conclusions demain.
Merci Axel May. Un événement dans le monde de l'édition, un auteur de best-seller décide de s'éditer lui-même. C'est Joël Dicker qui annonce son départ de la maison qu'il a fait éclore, de Fallois. Il va gérer ses livres tout seul, Nicolas Carreau ?
Oh bah sans doute, oui. Joël Dicker doit sa carrière fulgurante pourtant à son éditeur, Bernard de Fallois. Mmh. Il est mort en 2018, c'était une légende de l'édition et il a pesé de tout son poids pour faire connaître Joël Dicker. Résultat, la vérité sur l'affaire Harry Kéber s'est vendue à plus de 3 millions d'exemplaires en 2012. Et bien maintenant, l'écrivain veut voler de ses propres ailes.
Ça a été une décision difficile à prendre. Vous savez combien je suis attaché à cette maison et toute l'histoire qui me lie à elle. Mais j'avais le sentiment depuis quelques années, depuis la disparition de Bernard, qu'il allait falloir tôt ou tard que je prenne un nouveau chemin. Et en même temps, j'ai toujours dit qu'après Bernard, il n'y aurait personne. J'ai donc décidé de créer ma propre maison d'édition.
Voilà, pour l'instant, il n'en dit pas plus. Est-ce qu'il s'agit d'une maison d'édition pour lui tout seul ou alors pour publier d'autres auteurs ? Il donne rendez-vous à l'automne prochain et la maison d'édition sera lancée le 1er janvier 2022.
Merci. Merci, oui, on verra avec vous. Merci Nicolas Carreau. Le temps, Anissa a dit, aujourd'hui sera la plus belle et la plus chaude journée de la semaine.
Oui, il va falloir en profiter si vous avez la chance de sortir cet après-midi puisque le soleil va briller sur les trois quarts du pays et la douceur est au rendez-vous, Patrick, avec des températures vraiment très douces pour la saison. Nous aurons 12 degrés à Cherbourg, 13 à Brest et Montpellier, 14 pour Nice et Vannes, 15 degrés à Nîmes, 16 degrés pour Aurillac et Belfort, 17 à Besançon et Lille, 18 degrés cet après-midi à Paris, 19 à Bordeaux et 20 degrés du côté de Bayonne ou encore Mont-de-Marsan. Alors dans le ciel, le soleil brille, je vous le disais, sur les trois quarts du pays. C'est dans le nord-ouest en fait que le temps est plus instable avec une perturbation qui touche les pays de la Loire jusqu'à la Normandie en passant par la Touraine ou encore le Poitou. C'est en Basse-Normandie cet après-midi que les pluies seront les plus fortes. En fin de journée, les nuages vont finir par arriver sur la région parisienne avant un temps plus couvert et plus humide demain et puis surtout une vraie baisse des températures.
Merci à vous Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.
À suivre dans un instant, invité d'Europe Midi, l'ancienne magistrate Marie-Pierre Porchy qui plaide pour une autre approche et une autre réponse pénale face au fléau des crimes sexuels sur enfants.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Marie-Pierre Porchy.
Bonjour.
Ancienne magistrate, vous avez exercé pendant 36 ans comme juge des enfants, juge d'instruction, vice-présidente de tribunal. Vous publiez chez Fayard une nouvelle édition d'un livre publié en 2003, Les silences de la loi, une magistrate face à l'inceste, où vous rappelez d'abord qu'en matière de protection de l'enfance, notre pays part de très loin. Vous vous souvenez notamment de vos débuts dans les années 80 ?
Absolument. Et la question est très intéressante parce que le traitement de cette question exige quand même une mise en perspective des choses. Et effectivement, il y a une trentaine d'années, quand j'ai commencé à être magistrat, j'ai commencé dans une petite ville en tant que juge des enfants. Et à l'époque, on traitait essentiellement le sujet de l'inceste par le biais de l'assistance éducative et on ne poursuivait pas les pères, voilà, ou très rarement.
C'était un problème éducatif.
C'était un problème éducatif. À l'époque, c'est vrai que le pénal était très, très dissocié de l'assistance éducative qui est un domaine civil. Et puis progressivement, les choses ont évolué, évidemment, et progressivement, on a vu la difficulté, en tout cas, j'ai vu la difficulté à véritablement appliquer la loi en tant que, élément permettant à l'enfant de se structurer par rapport éventuellement à une aide éducative. Très précisément, je me suis aperçue que la loi, et c'est encore le cas aujourd'hui, ne permettait pas à l'enfant de comprendre le sens de la loi dans la mesure où il faut prouver en quoi il est contraint, encore aujourd'hui. L'enfant qui lui-même se trouve dans une culpabilité psychologique, vit très très mal l'application de cette loi, sachant que l'auteur, lui, souvent, rejette sa culpabilité sur l'enfant.
La loi, elle a beaucoup changé, Vous le rappelez dans votre livre, il faut rappeler aussi qu'il a fallu des années pour que la notion d'inceste soit inscrite dans le code pénal. C'est le cas aujourd'hui, mais la loi, elle a changé
très récemment,
2018, août 2018, elle n'a que 2 ans d'application, cette loi, et elle vous semble encore insuffisante. Il y avait eu beaucoup de débats à l'époque de cette loi, portée notamment par Marlène Schiappa. Ça, pourquoi c'est insuffisant?
C'est insuffisant parce que la loi de 2018 n'a pas résolu la question. Et on voit bien d'ailleurs la difficulté de poser l'interdit, qui n'est pas posé actuellement, même si les gens sont jugés, les auteurs sont jugés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on se bagarre sans cesse avec cette notion de contrainte, qu'il faut caractériser même quand un enfant est dans la réciprocité sexuelle. Donc cette question-là a essayé d'être résolue par la loi de 2018, mais on n'y est pas parvenu. Alors on a essayé de faire la distinction entre le consentement et la contrainte, ce qui est une différence très ténue.
Alors pour être précis, c'est intéressant parce qu'on a eu plusieurs intervenants qui sont venus nous parler de ça ces dernières semaines. La définition de la contrainte et de la surprise a été élargie, étendue dans la loi de 2018, c'est-à-dire qu'elles peuvent résulter de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits. Donc, on comprend, et c'est apparemment ce qui semble se passer aujourd'hui dans les tribunaux, il n'y a pas besoin de prouver ou de caractériser la contrainte morale.
Eh bien, si.
Vous dites le contraire.
Je ne dis pas le contraire, je constate que dans les tribunaux, il suffit pas de dire que l'enfant a tel âge et qu'il est dans tel rapport avec son agresseur, un rapport d'autorité ou un rapport filial. De façon quasi automatique, les agresseurs, lorsqu'ils reconnaissent les faits, rejettent la responsabilité de la relation sexuelle sur l'enfant. Donc, il y a systématiquement un débat
autour du consentement.
Autour du consentement, parce que c'est l'auteur qui instaure ce débat. Systématiquement, quand quelqu'un arrive devant le juge d'instruction et qu'il reconnaît les faits, systématiquement, on a droit à cette phrase atroce pour la victime, il était d'accord.
Mais je me souviens parfaitement des débats qu'on a eus il y a un peu plus de 2 ans pour la loi Schiappa et de l'avis du Conseil d'État qui avait été rendu et qui laissait entendre qu'une présomption de non-consentement serait inconstitutionnelle.
Voilà. Marie-Pierre Porchy. Alors, on parle de la présomption irréfragable. Effectivement, la présomption irréfragable, ça consiste à dire il y a une présomption d'absence de consentement, une présomption de contrainte, et on ne peut pas prouver le contraire. Cette présomption irréfragable, manifestement, ne peut pas être un support de la loi parce qu'elle est inconstitutionnelle. Donc, la loi de 2018 n'a pas pu poser cet interdit sur ce fondement-là.
Et alors, comment on contourne ça?
Alors, on contourne ça en disant, comme je le dis depuis quasiment 19 ans, et on dit, ce qui d'ailleurs aujourd'hui est un peu en préparation et qui sera voté le 15 mars, on dit, tel acte, alors viol ou agression sexuelle, commis par un majeur sur un mineur de tel âge, je crois que le consensus maintenant c'est 15 ans, est puni de. Et on ne fait plus aucune référence ni à la contrainte, ni à la menace, ni à la surprise. Et surtout, on supprime cette qualification atroce qui maintenant est une obligation dans les cours d'assises. Lorsqu'un viol ou une agression sexuelle est contesté, il faut systématiquement poser la question de est-ce que on peut retenir l'atteinte sexuelle sans contrainte ni violence. Et cette qualification ne devrait pas exister. D'ailleurs, dans les projets, je crois qu'elle est supprimée. Tout simplement parce que c'est dire à l'enfant, bon d'accord, tu étais consentant, mais quand même, on peut poursuivre l'auteur. Et donc, c'est un processus judiciaire qui anéantit le travail psychologique des enfants quand ils en ont entamé un.
Évidemment, la réédition de votre livre, Marie-Pierre Porchy, elle est liée, je suppose, à la révélation d'un certain nombre d'affaires médiatiques. Un débat est en cours sur la réactivation ou l'activation, tout simplement, de procédures sur des faits manifestement prescrits. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, vient de transmettre une directive à tous les parquets pour que des procédures soient ouvertes, même quand les faits sont prescrits. C'est ce que fait le parquet de Paris depuis des années à l'initiative de François Molins. C'est une bonne chose que cette pratique soit étendue à l'ensemble du territoire et des parquets?
Alors écoutez, je ne sais pas si je suis très légitime à répondre à cette question.
Pourquoi?
Mais personnellement, je pense que c'est une très bonne chose. Je pense que c'est une très bonne chose, parce que c'est juste mon avis personnel. Hein. Mmh. Je pense que c'est une très bonne chose, effectivement, parce que lorsqu'une procédure arrive, il faut d'abord vérifier que c'est bien prescrit. Vous savez qu'il y a eu plusieurs lois sur la prescription, qu'il faut situer à la date des faits, et que le calcul est quelquefois très très compliqué.
Je dis au passage, vous n'êtes pas pour l'imprescriptibilité.
Voilà,
vous pensez que là, ça suffit. On est sur 30 ans après la majorité, ce qui permet en gros 48 ans. Encore de poursuivre des faits très anciens.
C'est ça. Donc, je pense que c'est une très bonne initiative que de demander ceci au parquet. Mais je pense qu'il y aurait une autre initiative extrêmement intéressante. Et j'en parle d'ailleurs dans mon livre, je consacre un chapitre à ça. C'est que je sais qu'actuellement, des victimes se précipitent chez les avocats pour déposer plainte parce qu'ils ont peur que la prescription soit acquise. Donc, il y a énormément de gens qui vont s'adresser à la justice et on ne pourra probablement pas faire face à l'afflux de ces plaintes. Et je pense que peut-être que le ministère de la Santé pourrait se pencher sur une procédure qui est très utilisée dans les pays anglo-saxons et quasiment pas chez nous, c'est la justice restaurative. Voilà.
Il s'agirait de faire se rencontrer les parties, les amener à échanger.
Voilà. Alors, pas forcément se rencontrer, mais en tout cas... engager un processus qui leur permette des échanges, c'est une procédure extrêmement riche et intéressante qui permet des tas de possibilités, pas forcément une rencontre d'ailleurs, parce que ça peut être terrible de rencontrer son agresseur. En tout cas, elle permet ce que la justice habituelle ne permet pas, à savoir une rencontre autour des faits, des conséquences autour des conséquences des faits, parce que c'est vrai qu'on est plus sur une responsabilisation que sur l'étude d'une faute. Hein. Et c'est une procédure absolument qui serait tout à fait adaptée. Alors, pas forcément d'ailleurs que pour les agressions sexuelles et les viols, hein, pour d'autres infractions aussi. Sachant qu'aujourd'hui, la justice ne peut plus faire face à l'afflux des procédures. Mais vraiment, elle ne peut plus.
Donc, il faudrait des moyens et des personnels supplémentaires pour faire ce type de,
démarche,
évidemment.
Oui, mais pas forcément. Pas forcément, parce que la justice restaurative peut être exercée par d'autres personnes que les magistrats.
Merci beaucoup Marie-Pierre Porchy, je renvoie à votre livre « Les silences de la loi, une magistrate face à l'inceste » qui paraît chez Fayard. Merci d'être venu au micro d'Europe 1.
Merci.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Merci de nous avoir suivis le 13h dans un instant, puis la France bouge. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1.